moderne, la culture contemporaine, est une culture où on ne peut plus dire seulement Dieu est mort. Ça, c'était Nietzsche, et puis tout le reste, Hegel et tout ça, la lignée Hegel, Feuerbach, Nietzsche. Bon, maintenant, on est passé à autre chose. On est face à une culture de la mort de l'homme. Ce que le pape a repris, d'ailleurs. À Denver, il a dit, aujourd'hui, le monde est rentré dans la course effrénée d'une culture de mort. Donc le pape, les jeunes, l'humanité déclare aujourd'hui la guerre à cette culture de mort. La déclaration de guerre s'est faite l'année dernière. Ça, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que l'Église déclare la guerre à une culture mondiale. Jamais, on n'a jamais vu ça. C'est une déclaration de guerre, hein. Puis alors public, hein, officiel, PAC. Et puis plusieurs fois, et puis déclaration contre l'ONU, hein, récente, là, vous voyez, là, hein, protestation. Nous protestons. Et le pape qui appelle à faire des manifestations dans les rues. Arrivé là. On marche sur la tête ou quoi? Bon, c'est curieux ça, faut comprendre qu'il y a quelque chose. Quand on cherche l'harmonie, c'est qu'on est finalisé. On est dans un monde qui a perdu la finalité. C'est pour ça que tout le monde cherche à être équilibré. Et cherche à présenter le visage de l'équilibre. C'est beau d'ailleurs que l'association humanitaire, c'est pas merveilleux, s'appelle Équilibre. Mais ceci dit, attention, c'est des gens très bien. Je sais pas, ça te serait venu à l'idée, toi, de te faire une association humanitaire pour la Bosnie, hein, tu vois, et puis de l'appeler Harmonie. Oui, toi, oui. Mais, parce que tu fais partie de Fraternité de Marie-Reine, tu vois, et puis tu es philosophe, tu vois, hein, alors ça. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas comme ça. Il faut être finalisé, bon, il faut être finalisé spirituellement, humainement. Humainement, il faut être finalisé. Bon, au niveau, ce n'est pas, c'est encore autre chose, la grâce chrétienne. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez retenu les quatre centres de gravité de la Neshama, deux de la Neshama, n'est-ce pas? Ça, c'est important, je vais enlever ça. N'est-ce pas? La plante, elle a ses racines et son centre de gravité dans les racines, puisque c'est là qu'elle puise sa vie. Voilà pour la plante, son centre de gravité là. L'animal, m'excuse, c'est pas dessiné. L'animal, quatre pattes, son corps, son centre de gravité, n'est-ce pas, affleure le sol. Voilà pour la Neshama. Ou bien en dessous de la terre, n'est-ce pas, en dessous de vous, ou bien au cœur de vous. Attention, vous voyez, aujourd'hui, ça part pour la pastorale. Pour convaincre un auditoire quand vous êtes procureur de la République, ou je sais pas quoi, bon, parler du cœur, ça marche mieux, tu vois. Le cœur, la psychologie, t'es déséquilibré, pas coupable, etc., ici et là. Voilà, alors là, comme ça, faites œuvre de justice. Tu parles, tu fais œuvre animale. Tu fais œuvre animale. Il faut avoir quand même le courage de le dire, la loyauté de le dire. Tu fais œuvre animale. La justice n'existe plus. Personne, je ne vous fais pas une révélation. Hein. Alors, l'homme, lui, bon, ben, l'homme, d'un seul coup, lui, ben, qu'est-ce que vous voulez, il est debout, n'est-ce pas? Il est debout. Et alors, l'aneshama, n'est-ce pas, c'est celui de la plante et celui de l'animal. Et au lieu d'avoir son centre, il a un centre de gravité dans le cœur, il a un centre de gravité, si on veut. Oui, ça peut être un centre de gravité. L'en dessous du sol, parce qu'il y a quelque chose de végétatif dans notre vie quand même, il ne faut pas le nier. Hein. Bon, on le découvre de plus en plus, hein, le New Age, hein, de ça. Hein, les énergies, c'est ça. Hein. Quand on parle des énergies, il ne faut pas croire que c'est un progrès. Aujourd'hui, on est ici, n'est-ce pas, dans la neshama animale. Et en ce moment, on se précipite du côté d'un centre de gravité qui serait le centre de l'univers, tous les phénomènes d'énergie tellurique, etc., énergétique, de toute la création. Ça, et c'est le feu d'en bas, hein, vous le savez bien. Ça, c'est quelque chose, les énergies, c'est un phénomène de montée de feu intérieur. C'est la montée. Et c'est la racine d'en bas. New Age, c'est ici. On commence à s'avancer vers la fameuse spiritualité du centre de gravité des zones inférieures, qu'on appelle l'enfer. L'enfer, ça ne veut pas dire les ailes fourchues, etc. Ça veut dire que notre centre de gravité est à l'envers. On marche sur la tête. Hein. C'est ça l'enfer. On est tourné vers les zones inférieures, vers les inferno, inferno, c'est la spiritualitas infernorum. La spiritualité des lieux inférieurs. Ça? Bon, alors, eh bien, quand même, il faut voir qu'on a un autre centre de gravité, quand même, puisque Dieu fait que j'existe. Parce que il me pense, il me connaît et il m'aime. C'est ça qui produit en ce moment. La production de l'être que je touche vient d'un acte perpétuel de Dieu qui me connaît, qui m'aime. Il n'aime que moi. Parce que l'amour, s'il est véritable, il est exclusif. Quiconque a fait l'expérience de l'amour le sait très bien. Et si Dieu n'est pas amour, il n'existe pas. Ça, c'est démontrable philosophiquement. Je n'ai pas besoin de la foi pour le comprendre. Donc à ce moment-là, comme il me crée, n'est-ce pas, il implique sa rouard sur mon visage et mon centre de gravité est dans le face-à-face, dans la lumière. Le face-à-face. À ce moment-là, si je suis dans le face-à-face, c'est sûr que toutes les corruptions d'en bas et toutes les corruptions... Tous les déséquilibres, viennent à la lumière, n'est-ce pas? Bon, c'est très désagréable quelquefois de voir ces déséquilibres, de voir ces blessures, c'est sûr. Alors, attention, maintenant, la vie chrétienne et la vie divine, la vie religieuse. Alors bon, avec cet animal au-dessus, ça devient embêtant. Bon, la vie, donc, religieuse fait que, d'une certaine manière, la transcendance de Dieu met mon centre de gravité au-dessus de moi, le Créateur. Et puis enfin, la vie chrétienne met mon centre de gravité sur l'éternité de la Très Sainte Trinité et absorbe les quatre centres de gravité. Voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que j'ai mon centre de gravité, non pas... Vous voyez, faire attention, la vie religieuse n'est pas une fin en soi. D'être uni avec mon Créateur n'est pas une fin en soi. On le voit, et c'est ce qu'on pourrait voir avec justement le thème, cette idée du sacerdoce. Il y a des prêtres dans toutes les religions. Il y a des brahmanes en Inde, c'est des prêtres. Bon, dans l'islam, qui déjà quand même appartient déjà plus à la religion révélée, eh ben, il y a tout de même des représentants. Qui font les... Comment est-ce que vous appelez ça? Pardon, moi je connais que ça, mais enfin... C'est... Les imams, bon. Bon, vous avez les prêtres, les Kohens du monde juif, vous avez, etc. Bon, le prêtre, ça existe dans toutes les religions, n'est-ce pas? Mais à bien regarder, on s'aperçoit bien que... ça, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Dans l'islam, eh ben, ça aboutit au mieux sur les derviches, vous voyez, sur les danses tourneuses, etc. Bon, ça aboutit, c'est vrai, au mieux dans le judaïsme, ça aboutit au prophète Élie. C'est pas mal, remarque bien. C'est pas mal, mais enfin, bon, c'est même beau, oui, c'est même très bien. Ça aboutit tout de même à, ça aboutit quand même à Jésus. Mais enfin, c'est pas... C'est à cause de Jésus qu'il y avait du bien dans les prêtres de l'Ancien Testament. C'est à cause du Messie. Mais enfin, bon, vous voyez bien que si on met son centre de gravité, vous comprenez bien, que si on met son centre de gravité uniquement dans la mystique naturelle, il y a un risque. C'est que mon capital de vie doit être entièrement, mon capital de vie doit être entièrement concentré sur ce centre de gravité qui est au-dessus de moi, n'est-ce pas? Entièrement. Et du coup, il y a un risque de désincarnation. C'est un risque. Parce qu'à cause du péché originel, j'allais dire, tout ne rentre pas dans ce centre de gravité de l'un en soi, du bien en soi ou de l'amour en soi, qui est Dieu. Ça rentre en ordre dispersé. Et du coup, c'est d'abord l'âme qui y va, le corps reste là, on part en astral, etc. Comprenez ? Très embêtant, ennuyeux. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment atteindre entièrement Dieu dans l'épure du sabbat des sans racines, par exemple, sans passer par une décorporation, une division de la personnalité. Il faut toujours passer par des doubles et des choses comme ça. Bon. Et du coup, vous passez donc par le mensonge, parce que du coup, vous mettez une partie de vous-même pensant que tout y est, alors qu'en fait, vous vous êtes divisé. En plus, vous n'êtes pas y allé, vous pensez y être allé tout seul, alors que vous y êtes allé par la médiation d'autres. Vous vous êtes incorporé à d'autres, et au lieu de rentrer un et seul dans l'adoration, vous êtes rentré avec un autre composé et divisé. Très embêtant. Il faut saisir ça. Il faut saisir qu'on a besoin d'un prêtre éternel. Et le centre de gravité qui est là, c'est que le prêtre éternel, il faut qu'il soit entièrement créateur, entièrement éternel, entièrement lumière, entièrement Dieu, entièrement sanctificateur, entièrement source de gloire et en même temps entièrement homme. À ce moment-là, le nouveau sacerdoce n'est pas un sacerdoce, j'allais dire, qui vient de cet appel de l'homme à vivre de Dieu, mais c'est un sacerdoce qui vient d'en haut. Le Verbe s'est fait chair. Vous comprenez bien que la recherche de l'équilibre, la recherche de la santé, la recherche de l'harmonie, et la recherche de la plénitude, de la réalisation, comme on dit. De la réalisation. Bon, la recherche de l'immortalité ici et la recherche de l'éternité. Mais la recherche de l'éternité intègre les quatre autres centres de gravité. Tandis que la recherche de l'immortalité, voyez, vous oblige à nier quelque part, à vous purifier totalement, la catharsis. Et tous les systèmes initiatiques. Ce que ça veut dire, les systèmes initiatiques, ça veut dire un degré après un autre degré. Et tu n'as pas droit au secret d'initiation du 33e degré si tu n'es pas passé par celui du 32e degré. Hein? Initiatique. Initiatique, c'est facile à repérer. Ça, c'est parce qu'il faut la catharsis, la purification. Et sans la purification, vous voyez bien, il faut se purifier. C'est la recherche de l'immortalité. Et la recherche de l'immortalité, c'est l'entrée dans un cycle qui est interne au tout, interne au cosmos, et qui me permet, en fait, et qui en réalité, à cause précisément du péché originel, me coupe de l'éternité. Le cycle du temps me coupe de l'éternité qui est source de ce cycle. Ça, c'est une question. Il faut comprendre cette différence capitale entre l'immortalité. Vous êtes tout le temps, vous continuez à vivre tout le temps, 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 tout le temps. Et l'éternité. Dans l'immortalité, il n'y a pas d'amour. C'est une mémoire continuelle dans l'impassibilité. Alors, il faut être purifié, purifié, purifié. Puis je passe au 7e degré, au 8e degré. Ça dépend, vous savez, dans les loges ou dans les sectes, c'est complètement idiot, parce que c'est exactement, ça fait 2500 ans que ça dure depuis Pythagore. C'est les mêmes trucs, les mêmes techniques, ça n'a pas bougé. Alors on croit qu'on est intelligent, dans l'atelier, je suis passé au 30e degré, hein. Je suis maître maintenant. Attention. Imbécile. Perdre son temps comme ça, c'est effrayant. Parce qu'on ne veut pas du sacerdoce, on ne veut pas du prêtre, on ne veut pas du prêtre éternel, on ne veut pas de l'amour, on n'en veut pas. L'amour, c'est éternel. Parce que la connaissance, la gnose, c'est continuel. Et puis, la purification, ça vous magnifie. Tandis que l'expiation, ça vous fait rentrer dans l'amour. C'est pas pareil, la purification et l'expiation. Le prêtre est victime. C'est pas quelqu'un qui se purifie, c'est quelqu'un qui est victime. C'est pas pareil. Quand tu brûles une victime, c'est le feu qui brûle la victime. L'amour éternel qui brûle la victime. Il s'offre à l'éternelle béatitude de Dieu, pas à la sienne. Du coup, Dieu, évidemment, qu'il l'aime, lui communique sa propre béatitude, mais ça, c'est notre problème. Oh, tout de même, je veux quand même pas dépendre d'une complémentarité avec la béatitude de Dieu. Je traite moi-même ma propre béatitude. Ça, c'est le circuit initiatique, ça. Ça implique une purification. Donc si on met l'accent sur la purification, sur le devoir, sur l'impératif catégorique, vous voyez ? Attention, clignotant orange, clignotant rouge. Voilà, alors, donc, vous avez posé quelques petites questions, permettez que je les lise. Pourquoi Jean aurait-il célébré la première messe et non Pierre ? Ça, je crois qu'on a... on a vu ça déjà. Non, mais, donc, je termine quand même pour conclure. Oui, voyez donc, repérons en nous 1, 2, 3, 4, 5, les 5 centres de gravité. On ne doit en nier aucun. Bon, celui de la plante. La mystique moderne, New Age. La mystique du légume. En dessous. En dessous. Les énergies, tu vois. Biologique, ça. Les énergies. C'est biologique. Mais je peux en faire une mystique transcendantale, ça c'est sûr. Le centre de gravité qui est ici psychique. Mais enfin, disons, le cœur, les entrailles, les reins. Tout ce que tu ressens, toute ta vitalité. En mystique, ça va donner le point de vue, par exemple, mais on ne le nie pas, hein. Moi je ne le nie pas, je ne renie absolument pas, je ne méprise pas du tout. Hein. Ça va donner tout le point de vue, par exemple, je ne sais pas, moi, charismatique, par exemple. Pas du temps, il dégage le mec, hein. Ben, heureusement. Bon. Oh là là, attention, alors, dans certains monastères, on vous dit, c'est un petit peu, on voit un petit peu trop que, alors, que personne ne le voit, vous êtes prié, vous êtes chrétien, donc que personne ne le voit, est pur, etc. Recto tono, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Ah, voilà, oui, là, vous êtes un peu plus monastique, là. C'est plus prudent, parce que les gens, ils pourraient croire que le centre de gravité de l'Eucharistie, c'est là. Alors vous êtes prié de faire monocorde, comme ça, ils seront portés à penser que c'est plutôt de ce côté-là que ça se passe, dans cette direction là-haut, monocorde. Vous voyez ? On ne ressent rien. Alors, du coup, ils sont obligés de dire, bon, bah, peut-être que je vais ressentir quelque chose au niveau de l'insensible, là. Alors vous êtes prié de faire recto tono. Hein ? Si tu fais ton prêche là devant les jurés recto tono, hein, l'accusé il prend 6 ans de plus, c'est sûr. C'est pas vrai ? Alors au niveau de la justice, très bien. Vous y mettre toute sa pêche. Mais quand même au niveau d'une liturgie divine, allons. Tu vas pas prendre la mystique du lion, enfin la mystique du rugissement, du Ah non, enfin. Moi, je. Eh bien, moi, je dis que si, mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Donc, ici, il faut quand même avoir le visage en face à celui à qui on parle en pleine réalité, en pleine vérité, face à face. On n'a pas peur, on ne se planque pas. On ne se planque pas la vérité, je veux dire, c'est vrai, j'existe, il existe. Et j'en tiens compte, je suis face à lui. Je suis face à celui que Dieu a mis proche que moi. Je ne me barre pas. J'ai pas peur. Et pourquoi avoir peur? Puisque Dieu est là. Ah, quatrième stade. Ça, c'est le point de vue humain. Troisième centre de gravité. La Nefesh. Parce que Dieu a soufflé son souffle sur le visage de l'homme. C'est pourquoi il peut être debout. Et être face à face. Par rapport à celui que Dieu a mis proche que de lui. Son prochain. Son enfant. Son ami. Bon, quatrième centre de gravité, c'est le point de vue transcendant, c'est le Créateur. Le Créateur. À partir du moment où tu es saisi que tu existes et que c'est Dieu, tu es suspendu à la Créateur de Dieu, tu comprends tout de suite que la mort est quelque chose de très douloureux, de très pénible, de très anormal quelque part, de très révoltant. Mais que c'est pas du tout un point final. Ça, tu le vois tout de suite. Hein. Dès que ton intelligence s'est réveillée et que tu es capable de faire un jugement d'existence, que tu es capable de faire également une induction de l'âme, je crois que c'est assez facile, une fois que tu as touché l'existence de l'être premier, de voir que ta vie est une vie d'immortalité. Tu continues après la mort continuellement, perpétuellement. Ça, c'est sûr. L'immortalité de l'âme, c'est quelque chose qui se prouve une fois qu'on a découvert l'existence du Créateur. C'est sûr. Mais en même temps, je n'ai pas besoin de la foi puisque c'est une démonstration de l'intelligence. Hein. Donc, je vous rappelle, quelqu'un qui croit que Dieu existe, enfin, que le Créateur existe, et qu'après la mort, je continue avec une âme immortelle. Pas besoin de la foi, puisque c'est démontrable, c'est démontré. La foi ne regarde pas les choses qui sont faciles à démontrer par l'intelligence. Donc, si moi je crois que le Créateur existe et que je vis après la mort, je dis d'accord, c'est très bien, ça prouve que vous êtes intelligent. Mais avant, je n'y croyais pas, ça prouve que vous étiez idiot. Ça prouve simplement que vous n'avez pas eu le bon sens d'une intelligence. Qui essayait d'être loyal avec la vérité, la réalité. Puis, mais donc, en tout cas, tous ceux qui ont réfléchi, tous. Moi, je ne connais pas. Hein, même les. Patrick a fait des articles à ce moment-là sur toutes les positions, tous les scientifiques, puis tous les athées, tous les philosophes. Vous avez vu ce truc-là, là, il y a à peu près qui sont réputés être athées, soi-disant. Et ils disent tous, Dieu existe. Hein, tous. Nietzsche, Staline, Mao, Marx. Engels, tous disent Dieu existe, c'est indubitable. Einstein, je sais pas comment tu appelles moi, tous, enfin on va pas faire la litanie, tous ceux qui sont censés être complètement athées. Tout le monde le sait. Déclaration officielle, écrite, tout. C'est normal. On n'est pas dépourvu de bon sens, même si on est faux. On garde l'intelligence, quand même. Mais ça, c'est. Mais bon, peu importe que tous ces gens-là le croient, le savent, c'est pas une preuve. La preuve, c'est la démonstration. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la démonstration de l'existence de l'être premier. Ceux que ça intéresse, il y a certainement des sessions très intéressantes qui se font de par le monde pour pouvoir entrer là-dedans. Voilà. Donc vous comprenez qu'ici, il y a un centre de gravité. C'est mon créateur. C'est mon créateur. Et c'est le terme, c'est pas le terme, mais c'est la finalité qui co correspond à l'immortalité de mon âme. Mon âme est immortelle. Et au terme, ou plutôt, plus exactement, l'immortalité de mon âme est finalisée par quoi? T'en compte? Ton âme est immortelle. Où est la fin de ça?
Si elle est immortelle, il n'y a pas de fin au niveau de la vie humaine. Et donc, tu es obligé, si tu constates l'immortalité de l'âme, tu es obligé de voir, parce qu'il n'y a rien sans une finalité. Il n'y a aucun ordre sans finalité. Ça n'existe pas. Le philosophe est obligé de constater ça par induction. C'est impossible. C'est pas par déduction, c'est par induction. Donc, on est sûr de ne pas se tromper. La déduction peut se tromper. Il avait une mère qui était... il avait une mère qui était traumatisée et son père était un brigand, donc lui, c'est normal, il n'est donc pas responsable. Ça, c'est une déduction, mais ce n'est pas forcément juste. Parce que des gens qui ont des parents très équilibrés et qui sont des brigands, et qui ne sont pas responsables, et d'autres qui ont des parents très déséquilibrés, et qui sont des brigands et qui sont totalement coupables. Humainement, psychologiquement, c'est autre chose. Mais dit-on, ouais. Ce centre de gravité-là existe, celui-là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et celui-là là-bas aussi. Mais ça, tu vas toujours dire ça injuste, tu vas voir. Vous voyez ? Alors, vous comprenez ? Le centre de gravité ici est quand même quelque chose de très important. Je suis finalisé par la vie en soi. Le créateur. Le bien en soi. Cette simplicité absolue dans l'ordre de la vie, de la bonté, de l'unité, de l'amour. Je suis finalisé, parce que c'est mon origine, c'est ma fin. C'est au-dessus de moi. Alors vous voyez, ça, c'est, je commence à planter ma racine un petit peu au-dessus de mon visage. C'est un quatrième centre de gravité. Le cinquième centre de gravité, si vous voulez, c'est récapitule tout. Il est en même temps très au-dessus, ou plus exactement, complètement au centre du quatrième centre de gravité, au centre pour l'irradier, au centre du troisième centre de gravité, au centre du cœur, au centre de la Terre. Et en même temps au centre de la très sainte Trinité, c'est le Christ prêtre. Le Christ prêtre fait que nous avons cinq centres de gravité. Bon, c'est une manière de parler, évidemment. Mais quand même, c'est intéressant, cette petite distinction que font les rabbins juifs sur les rabbins du Talmud, sur justement ces centres de gravité, les deux de la Neshama, celui de la Nefesh, la Ruar Kadosh. Bon, je répète. Parce que en hébreu, il n'y en a qu'un qui comprend, alors je vais traduire, j'ai pitié de ceux qui n'ont pas compris. Donc, la Neshama, on dit en latin « anima », donc nous on dit « l'âme ». L'âme, oui. Alors, la âme, le âme, oui, c'est embêtant cette espèce d'accent circonflexe là, d'accent machin, parce qu'on voit plus si c'est féminin ou masculin. Donc, voyez bien. Donc, la âme, c'est Neshama, le point de vue végétatif et animal. La neshama du haut, la neshama du bas. Anima. Anima. Vous verrez ça quelquefois dans les articles de où quelqu'un veut faire bien, etc. Ou même chez les poètes. Animus, anima. Animus, anima. Animus, c'est masculin. Anima, c'est féminin. Voilà. Donc, anima. Eh bien, c'est la neshama. Je préfère en hébreu, c'est mieux. C'est vrai. Hein? Puis il y a des sous-centres en hébreu, justement, qui font que c'est beaucoup plus intéressant. Bon, animus, c'est l'âme masculin, nefesh. Le âme, nefesh. Vous voyez, c'est le visage de l'homme. Pourquoi il est nefesh? Parce que la ruar, le souffle de Dieu, l'a levé. Il n'est pas quatre pattes. Et il n'a pas la spiritualité de la taupe, ni la spiritualité du reptile.
Ça correspond au nous, grec,
la partie. Ah non, la nefesh, c'est l'âme, hein, c'est l'âme, l'âme. Nous, c'est l'intelligence. C'est l'esprit, c'est la partie.
C'est la neshama, vous disiez ?
Neshama et nefesh, c'est âme.
Partie sensible de l'âme, et ensuite, là, c'est
la nefesh. L'âme, oui, mais on dit, ça va pas, c'est pas la même chose qu'en grec, justement. En grec, tu aurais tendance à dire âme végétative, âme sensitive. D'accord ? Parce que les Grecs, ils sont comme ça. Eux, ils descendent dans la division. Tandis que le Juif, lui, il monte dans l'unification. C'est pas pareil. Donc la Neshama, tu unifies tout entier. Tu vois, c'est pas pareil, la Neshama. La Neshama rassemble tout. Mais au niveau des énergies. Mystique des énergies. Rassemble tout au niveau psy. Alors la Nefesh, c'est parce que Dieu t'a créé. Dieu a soufflé sur toi, sur ta première cellule, t'as communiqué l'amour éternel, l'immortalité, le lien avec l'éternel, le lien avec l'immortel, et par conséquent, du coup, tu peux te lever. Tu n'es plus un reptile. Tu te lèves et tu effaces. Tu rayonnes sur ton visage, tu as la lumière, tu es capable de voir, chercher la vérité et d'être face à face, d'être contemplatif. À cause de la rouar de Dieu, tu es capable d'être contemplatif.
La rouar de Dieu nous introduit déjà dans la quatrième dimension.
Non, oui. Oui, c'est pour ça que, et de même que la Neshama a deux aspects, de même que la Nefesh, quelque part, a deux aspects. Mais c'est la rouar de Dieu qui te permet d'être, à la Neshama, d'être Nefesh, d'accord ? À l'anima, d'être animus. C'est-à-dire, à toute ta vitalité intérieure, d'être relative à un autre plus grand que toi. Donc ton prochain est nécessairement quelque chose de plus, quelqu'un de plus grand que toi. De découvrir que l'autre est plus grand que moi, le cochon ne peut pas y arriver. Même la truffe, il trouve que c'est moins grand que. Sinon, il... Vous voyez, c'est vrai. Voilà. Et c'est la rouar, justement. La rouar. Le souffle d'amour et de vie de Dieu. Hein, qui, du coup, est en toi, quelque part. Tu vois? Donc, la nefesh et la rouar sont corrélatifs. Ça va? Mais la rouar, qui est la présence créatrice, la présence d'immensité de Dieu, de ton créateur, dans cette simplicité, il est omniprésent, toi. Et toujours présent, toi. Partout et toujours. Cette simplicité extraordinaire commence à te mettre au-dessus de ta vision. Ce n'est même pas toi qui es capable de voir quelqu'un de plus grand que toi. Tu es au-dessus. Tu es avec l'unique simplicité omniprésente de Dieu. Et du coup, tu es capable d'être présent à toutes les créatures. Mais si tu ne fais pas attention, et si tu mets toute ta neshama et ta nefesh là, il y a un risque, à cause du péché, à cause de la mort, de dissociation de ta personne. Le péché, quelque part, et puis aussi la présence des ténèbres, introduit d'une certaine manière une possibilité d'illusion. Il y a des failles en nous. L'assiette est fêlée. Vous le savez, ça. Donc attention de ne pas mettre une soupe trop liquide, sinon ça file sur la nappe. Il faut mieux donc mettre de la nourriture solide. Tu mets un bon beefsteak. C'est pour ça que Saint Paul dit, je ne vous donne plus du lait, je vous donne de la viande. Le verbe s'est fait chair. Que la présence de Dieu ne soit plus sous une mode de présence maternelle, c'est normal. Je vous donne de la viande, le verbe s'est fait chair. Sinon, ça coule sur la nappe. Alors, si je ne tiens pas compte du fait qu'il y a cette fêlure, il y a cette division en moi, je ne veux pas voir. Le péché, c'est une bêtise. Ça m'énerve d'entendre ces espèces de gens qui sont dans la religion de dire il y a le diable, il y a Satan, il y a le démon. Oh. C'est énervant. La tentation, c'est culpabilisant, c'est traumatisant, c'est des gens qui sont... C'est vrai, t'as pensé à la bouteille de champagne. Et puis du coup, oui. Mais non. Alors, je veux pas voir non plus pourquoi je me révolte souvent psychologiquement contre ça. En même temps, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il faut pas voir le toto partout. Hein. On a tendance à voir le toto beaucoup trop. C'est pas la peine, il est déjà suffisamment présent sans qu'on vienne en plus le. Ah, c'est Clément. Ben non, pas le devant. C'est toi. C'est toi. C'est pas le démon, c'est toi. C'est toi qui fais les.
Moi je suis fêlé, pas du tout. Ah, c'est une histoire. C'est pas de ma faute. Ah bah si tu dis que c'est pas ta faute, c'est donc qu'il y a bien quelque chose de fêlé. C'est clair. Bon, non, ça c'est de la bêtise de dire une chose pareille. Mais c'est pour faire comprendre une chose, c'est que la maternité divine ne suffit plus au bout d'un certain temps, parce que précisément, nous n'avons pas cette santé originelle, si je puis dire. La grâce originelle, qu'on le veuille ou non, ça on le constate. Ça, je suis désolé. J'ai pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin de la foi non plus. Je constate que j'ai une tendance à la vanité, une tendance à l'orgueil, une tendance aussi à la concupiscence. Hein. J'ai une tendance, j'ai un poids vers le sensible terrible. Ça, je peux le constater. Quand Aristote constate ça, qui est quand même le philosophe païen par excellence, hein, il constate ça. Il dit, l'homme est la seule réalité dans la nature qui soit en dissociation par rapport à sa finalité naturelle. Il est divisé par rapport à sa vie. Et il dit, c'est incompréhensible. L'homme, c'est la seule réalité dans la nature qui... La fleur, elle suit sa finalité normalement, sans résister. L'animal aussi, l'oiseau, il se nourrit, il vole, etc. Tandis que l'homme, par rapport à sa finalité, qui est de contempler, de manière incarnée, totale, dans l'unification, il file tout le temps dans des directions opposées. C'est inexplicable au niveau de la nature. Ça veut dire que la nature humaine, il y a un phénomène de dissociation, d'écartement, d'écartèlement par rapport à sa finalité naturelle, et ça, pour un philosophe, c'est inexplicable. La foi nous explique que c'est à cause du péché. C'est la foi qui nous l'explique. Mais quand même, je constate quand même une chose. C'est que là, autant c'est difficile d'admettre humainement l'existence d'Adam et Ève, et puis l'histoire de la pomme. Hein. Tu sais, croquer quoi, la moitié de la pomme? Et puis non, soi-disant, la pomme a disparu entre eux avant qu'ils l'aient croquée. Tu vois, bon. C'est difficile à avaler quand même. Hein. Et puis, alors après, il y a. C'est vrai, il faut reconnaître. Le péché originel, tout ça, humainement, hein, c'est difficile à avaler. Autant les séquelles, les conséquences du péché originel, ça, tout le monde peut le croire. Bon, que le péché originel ait existé, ça, tout le monde peut le constater. Parce qu'on constate tous en nous les séquelles du péché originel. Cette espèce de tendance irrémissible, continuelle à l'orgueil. Que ça ne supporte pas que l'autre soit plus grand que nous. Il n'y a rien à faire. Et puis cette tendance à la concupiscence, au sensible et tout. Il faut reconnaître, hein, la boulimie, moi, c'est effrayant. Moi, je vais donner ma vie à la vie ascétique, n'est-ce pas? Et de pénitence, tandis que mon frère se donnait à une vie, donc, dans le monde, de mariage, tout ça. Eh ben, lui, il a perdu 10 kilos, moi j'en ai pris 35 quand même. C'est terrible ça! Mais c'est effrayant! Comment ça, cette espèce de. Cette tendance, ce poids vers le sensible. C'est vrai, on le constate ça. C'est pourtant pas notre nature, ni notre volonté. C'est pas notre désir, c'est pas notre. Vous voyez? Alors, constater les séquelles, la vanité, cette tendance à toujours vouloir s'occuper de choses secondaires. La télévision. Le match de foot, Montpellier va gagner contre Milan. On s'en fout. C'est secondaire. On s'engouffre dans les choses complètement secondaires, pour ne pas dire dans l'échelle des valeurs, en dernier, quoi. C'est vrai, les choses secondaires à la vitrine, tu sais, tu te promènes, allez, non, Dieu. Tu vois, tu compares, tu vois, l'eau sauvage avec. J'aime beaucoup l'eau sauvage, hein, ceci étant. Vous comprenez bien que les séquelles du péché, les séquelles, ça, j'ai pas besoin de le croire. Je le constate. Le philosophe le constate, Aristote le constate, l'humanité le constate, c'est incompréhensible. Alors, on essaie de trouver des solutions. On dit, bon, ben, il faut se forger des vertus. C'est comme ça qu'est née l'éthique d'Aristote. Il faut forger des vertus, vertus de prudence. Voilà, il faut essayer de colmater la brèche de telle et telle manière. Il faut avoir la vertu de tempérance, la vertu de chasteté, la vertu de ça. C'est païen de dire ça. C'est païen. Et c'est vrai. Mais c'est chrétien. Mais les chrétiens ne le méprisent pas. Qu'il faut être juste, prudent, doux, mettre de l'huile, miséricordieux, effacé, humble, patient, fort intérieurement. Ça, c'est païen. Mais c'est bien. C'est bon. C'est vrai. C'est pas religieux, c'est pas chrétien. Ça veut pas dire que du coup, on va le faire. Pour nous, en tout cas, certainement non, puisqu'on a 5 centres de gravité. Et ils sont irrigués, tous, les 5, vous voyez bien. Mais notre centre de gravité principale, c'est le Christ. Et il irrigue tout ce qui est création dans la création, tout ce qui est humain dans l'humanité, tout ce qui est vivant dans la grâce. Et tout le cosmos. C'est pour ça. Et ça, c'est le sacerdoce. C'est que je fais l'unité entre tous les centres de gravité, entre les contraires eux-mêmes, le temps et l'éternité. Ce sont deux contraires. Entre le péché, dissociation, et la gloire. C'est deux contraires. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est médiateur, unificateur, trait d'union, mais unificateur. Tu es en même temps trait d'union et unificateur. À ce moment-là, tu es médiateur. Tu fais communiquer la vie de tout le premier dans le second, et la vie de tout le second dans le premier. À ce moment-là, tu es médiateur. Et quand tu es médiateur, dans l'allée, l'un, tu vois, tu veux être ambassadeur. Quand tu passes de l'un au second, tu fais pas communiquer toute la vie du premier dans le second, puis toute la vie du second dans le premier, tu es médiateur. Et quand les deux mouvements se font simultanément, continuellement dans le temps, et éternellement, tu es prêtre. La différence entre le prêtre et le médiateur, hein. Simplement, c'est pour expliquer la médiation, vous comprenez? Il dit, non, c'est pas possible. Donc il dit quelque chose, un roi dit quelque chose à la reine, bon, il dit quelque chose, il passe par une médiation. Même là, il est passé par une médiation, parce qu'il a dit ça devant un micro, il n'y avait pas la reine en face de lui. Il ne lui a pas dit dans la Rolls-Royce. Il l'a dit au peuple, et le peuple a rigolé, la reine a compris. Bon, dans la médiation, dans l'ambassade, l'ambassadeur, tu envoies ton ambassadeur. Et l'ambassadeur t'envoie la réponse. Un médiateur, t'as un aller, t'as un retour. Mais c'est pas en même temps. Un prêtre, c'est simultané. Pendant que l'humanité est emportée en Dieu, Dieu est emporté dans l'humanité simultanément. Pendant que le temps est transplanté dans l'éternité, l'éternité est transplantée dans l'instant présent. Simultanément. Entre dans la glorification éternelle de Dieu, eh bien, l'Esprit Saint éternel et rentre dans la nefesh et la ruach de l'homme, ainsi que dans son cœur, sa neshama. C'est simultané. C'est en même temps. Donc, différence entre le médiateur et le prêtre. Le médiateur, c'est un trait d'union qui fait communiquer l'un et l'autre. Communiquer la vie de l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, mais le prêtre, il le fait simultanément. C'est pour ça d'ailleurs, je vous le signale, je vous le rappelle, qu'il y a, c'est pas si commode que ça, moi, si je pouvais vous dire la messe, de temps en temps je vous dis la messe en ce moment face au peuple, n'est-ce pas, ça, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le prêtre en ce moment, dans l'Église catholique, fait face au peuple, fait face à la communauté, fait face au corps de l'humanité, avec derrière toute la création qui est présente, si vous voulez. Je suis face à vous. Jésus, prêtre, vient vers vous, se donne à vous, communique dans l'Eucharistie. Bon, mais il y a qu'encore quelques années, et pas longtemps, bon, eh ben, vous pouviez toujours voir mon visage, impossible, il aurait fallu que vous fassiez autrement. Il aurait fallu que vous soyez petit enfant de cœur ou une petite souris. Toute petite souris. J'aimerais bien être une petite souris pendant que les gens disaient la messe avant 1960, vous voyez. J'aurais voulu être une petite souris pour voir le visage du prêtre au moment de la... Eh bien, il tournait le dos tout le temps. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre. Et alors, un jour, on a découvert le visage des prêtres. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils sont moches. Il y a des boutons. Ils louchent, ils zozotent. N'empêche que c'est pas la même chose. Parce que quand je suis comme ça, face à Dieu, j'emporte avec moi tout le peuple en Dieu. C'est toute l'humanité qui est emportée en Dieu. Bon, quand aujourd'hui, le prêtre fait face, il y a un changement quand même. Fait face, c'est le Christ qui revient et qui amène la très sainte Trinité aux hommes. Bon, malheureusement, nous sommes des êtres humains, même dans l'Église catholique, et donc on ne peut pas être à la fois en face et à la fois simultanément, on ne peut pas. Alors du coup, le résultat, c'est qu'on a trouvé cette solution géniale, c'est qu'on est en face de vous, et l'Église demande aux prêtres de vivre tout d'une manière contemplative. Donc il est à la fois en face de Dieu et en face des hommes. À ce moment-là, c'est à cause de ça qu'il y a eu le changement. Pour montrer que le sacerdoce, c'est pas un sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, c'est l'humanité, le peuple de Dieu qui monte vers Dieu au Sinaï, qui monte vers son Messie. Comme dans l'Ancien Testament, on passe à une phase où maintenant la liturgie exprime la réalité du sacerdoce éternel du Christ. C'est simultané. Dieu est donné aux hommes et les hommes sont donnés à Dieu. Et le prêtre réalise simultanément les deux. Non, c'est à cause de l'ascension. C'est à cause du fait que le Christ est assis à la droite du Père. C'est que l'humanité du Christ est dans l'éternité glorieuse.
La coïncidence du temps et de l'éternité, c'est au moment de la résurrection. Enfin, le fait
que... Négatif, la résurrection fait que le corps du Christ retrouve sa vitalité dans la vision béatifique jusque dans son corps, mais il rentre dans l'omniprésence du Créateur. Hein? C'est pour ça qu'il reste avec nous pendant 40 jours. Et à un moment donné, il échappe à cette omniprésence elle-même. Sans l'abandonner. Parce qu'il reste omniprésent. Mais il va dans un centre de gravité bien plus. Tout à fait autre. L'abîme entre la mort, entre, si tu veux, la résurrection de Lazare, et la résurrection du Christ est un abîme moins grand que l'abîme entre la résurrection du Christ et l'ascension à la droite du Père. Parce que dans la résurrection, il habite tous les temps et tous les lieux. Mais qu'est-ce que c'est que tous les temps et tous les lieux? C'est rien du tout à côté de la très sainte Trinité. Rien. L'immortalité, c'est le crachat de crapaud à côté de la splendeur de gloire continuelle et éternelle de Dieu. Hein? Ça, il faut saisir ça. On n'est pas dispensé d'être intelligent quand même, même si on n'arrive pas à aimer. On n'est pas fatigué. Du côté de l'intelligence, on peut le comprendre. Du côté du cœur, bon, on va avoir besoin du cœur de Jésus. Ça, oui, d'accord. Mais c'est les choses qu'il faut comprendre, vous comprenez, parce qu'il faut tout donner, on se met à genoux, il faut tout réveiller en nous, toutes les puissances de vie sensibles, mais aussi contemplatives, intérieures, mystiques, spirituelles. Ah, et puis cette réceptivité silencieuse de Jésus, cette réceptivité silencieuse de Marie, s'enfouir. Ah, il faut se rappeler ça, deuxième thème aujourd'hui, s'enfouir, l'enfouissement. moment dans le silence de Marie, s'enfouir dans le silence de Marie, s'enfouir dans le silence de Marie, qui est la seule qui est capable de recevoir l'éternité dans le temps, le corps ressuscité du Christ qui spire, l'Esprit Saint, la très sainte Trinité, qui se livre à toute l'humanité en soif d'éternité. Et tous ces mouvements anagogiques éternels et en même temps très incarnés sont tous accueillis dans le silence, la réceptivité de Marie. Et il faut que nous nous enfouissions à l'intérieur de cette réceptivité, ce silence de Marie, ce silence de la médiatrice. Vous voyez bien, on dit Marie médiatrice. On dit pas Marie prêtre. Hein. C'est ça, mais c'était la pré-introduction. Alors, j'ai même pas eu le temps de lire la question. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, je suis indiscipliné complètement. Je le lis quand même pour que on attaque quand même cette question. Pourquoi l'homme seul est-il appelé au sacerdoce sacramentel? Est-ce que cela est en rapport avec la matière du sacrement de l'ordre? Que nous dit-on à ce propos dans l'histoire de l'Église? Quel est le fondement théologique à tout ceci? Oui. Question très délicate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types du sacerdoce dont vous nous avez parlé en les réexpliquant? Alors oui, je l'ai marqué comme ça, réfléchissez-y pour qu'on en parle cet après-midi. Les différents types de sacerdoce. Alors, on a parlé du sacerdoce du prêtre naturel. Du prêtre naturel. C'est naturellement qu'on a besoin de certains qu'on désigne comme lui sera rabbin, lui sera imam, hein. Lui sera, allez, Aaron, hop, on le flanque prêtre, hein, n'est-ce pas? Bon, le prêtre naturel, le brahman et tout ça. Bon, le sorcier dans la tribu. Bon, la différence entre un prêtre naturel. Le prêtre, sacerdoce lévitique, le sacerdoce lévitique, institué par Dieu quand même. Hein. Alors là, c'est plus tout à fait naturel. Le sacerdoce lévitique institué par Dieu sur le Sinaï. Sur le Sinaï, Dieu donne la Torah à Moïse et il demande à Moïse, enfin, il dit à Moïse, ok, non, c'est avant là, c'est avant le Sinaï, excusez-moi, on le verra ça peut-être. Il demande à Moïse, avant le Sinaï et après la circoncision, de désigner Aaron comme prêtre.
Oui.
Attends, justement, c'est la question, donc on y répond cet après-midi. Je la pose, c'est tout. Le troisième type de prêtre, donc ici, le prototype Aaron. Bon, troisième type de sacerdoce, le prêtre, ben, selon l'ordre de Melchisédek. On voit très bien dans l'écriture, qu'est-ce que c'est que ce type? Alors là, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce sacerdoce-là? Un prêtre. Donc, vous avez le sacerdoce du Christ. Il est le grand prêtre. Le Christ, qui est, au fond, le sacerdoce, on appelle ça le sacerdoce éternel. Bon. Le Christ institue, avant d'être lui-même institué comme prêtre éternel, institue des prêtres... Faites ceci en mémoire de moi, sacerdoce sacramentel. Donc, théologal aussi. Surnaturel. Mais c'est au service, comme nous avons essayé de le suggérer hier déjà, puis on va essayer peut-être, c'est au service du sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Sacerdoce marial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui. Pourquoi? Parce que ce sacerdoce royal, il n'arrive pas comme ça. Ces sacerdoces sont au fond de la médiatrice, vous voyez bien. Mais déjà, nous sommes prêtres par le baptême, sacerdoce des fidèles. Donc, sacerdoce des fidèles, sacerdoce du baptême. Donc voilà, 7, c'est normal, comme toujours. Donc on va essayer de voir la différence entre ces 7 sacerdoces. C'est important à voir. Évidemment, il y a une petite différence à chaque fois. Vous imaginez qu'entre le sacerdoce éternel du Christ et puis le sacerdoce du Brahman, il y a une petite différence. Mais entre le sacerdoce du baptême, par le baptême, tu es prêtre, hein? Tu es prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, dans le sacerdoce éternel du Christ, mais selon un mode particulier. Et quand tu reçois le caractère du sacrement de l'ordre, également, tu reçois le sacerdoce naturel, tu reçois le sacerdoce lévitique, tu reçois le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, tu reçois le sacerdoce sacramentel et éternel. Mais sous un certain mode aussi. Mais enfin, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais le truc le plus important à comprendre dans cette division, c'est la différence entre le sacerdoce, c'est ce qu'on verra, entre le sacerdoce royal, qui est lié au baptême, et le sacerdoce sacramentel et éternel. Sacerdoce ministériel, mais aussi sacerdoce. On va voir la différence entre les deux. C'est surtout ça qui est important. Et évidemment, il faudrait qu'on lise l'Écriture. Bon, on va essayer quand même de le faire au moins un petit peu une fois par jour pour essayer de voir justement comme tout ça est inscrit à l'intérieur des exercices qu'on trouve dans le sacerdoce de toutes les religions, dans le sacerdoce de Moïse, dans le sacerdoce, je veux dire, de l'Ancien Testament, et aussi dans le sacerdoce angélique, hein, si je puis dire, des messagers. Voilà.